Alors il faut le dire clairement, il n'y a pas d'enthousiasme clair ici à Tokyo pour ces Jeux Olympiques. Les sondages le montrent, les conversations que l'on a avec la population locale aussi, on craint que l'arrivée, l'afflux des étrangers ici à Tokyo pour ces Jeux Olympiques n'entraîne une hausse des cas positifs du Covid-19. Par exemple, aujourd'hui à Tokyo, un record de 6 mois a été battu, un record des cas quotidiens du Covid-19 ici à Tokyo. Alors les organisateurs espèrent qu'avec la lancée officiellement de ces Jeux Olympiques dans moins de 24 heures, l'opinion publique pourrait changer. En fait, il y a des opinions très divergentes et parfois contradictoires entre ceux qui ne veulent pas que ces Jeux Olympiques aient lieu pendant une pandémie. Il y en a d'autres qui sont déçus parce qu'ils ne peuvent pas voir ces événements en personne. En fait, c'est une opportunité unique, bien sûr, pour la population de Tokyo qui se perd avec cet événement qui aura donc lieu entièrement sans public. Pour les athlètes aussi, il faut le dire, ce sera une expérience très différente à des Jeux Olympiques précédents. On leur a dit de ne pas se mélanger avec la population locale. Nous aussi, c'est ce qu'on appelle une bulle olympique. D'un côté, ceux qui ont organisé les Jeux, les athlètes, et nous, les journalistes, et de l'autre côté, la population locale.
Et Philippe, les organisateurs parlent de cérémonies d'ouverture simples et sobres. À quoi donc faut-il s'attendre? Des dirigeants du monde sont-ils tout de même attendus?
Alors d'abord, ce sera très difficile de cacher qu'il s'agit ici, vous le voyez derrière moi, ce stade olympique de Tokyo qui sera donc entièrement vide pendant cette cérémonie d'ouverture, avec des petites exceptions, avec peut-être quelques dizaines de dirigeants, des délégués et bien sûr les athlètes qui entreront dans ce stade tous ensemble, mais avec des gestes barrières qu'on connaît bien sûr depuis 16 mois. Cette cérémonie, on s'attend à ce qu'elle soit sobre et qu'elle fera référence bien sûr à la pandémie et à la mort qu'elle a entraînée ici au Japon et bien sûr partout dans le monde. Une cérémonie aussi qui sera bien sûr faite pour la télévision, c'est après tout le seul endroit où on pourra la suivre, le stade. Les 60 000 sièges resteront entièrement vides. Ce seront donc des Jeux Olympiques très frustrants, oui, franchement, et très controversés qui commenceront ici dans le stade olympique dans moins de 24 heures.
Voilà. Philippe Crowder, vous êtes notre confrère de l'agence EPI et vous êtes en ce moment à Tokyo pour les JO. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Sans plus tarder, accueillons nos invités avec moi sur ce plateau à Washington. Eugène Pehua-Pelema, qui a pris part aux Jeux Olympiques d'été de 1988 pour l'équipe de basketball de la République centrafricaine. Il est fondateur du réseau Africa Education Sports et actuellement directeur technique national de la Fédération centrafricaine de basket. Premier invité d'ailleurs sur ce plateau depuis plus d'un an en raison bien évidemment de la pandémie. Également avec nous via Skype de Paris, Hervé Kouamouo, journaliste sportif d'origine camerounaise, et de Dakar, l'ancien athlète international Serge Do, qui a notamment décroché pour la Côte d'Ivoire la médaille d'or du lancer du disque lors des championnats d'Afrique de Yaoundé au Cameroun en 1996. Il est l'agent de la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré. Muriel Aouré qui participe au JO de Tokyo. Justement, Serge Do, pour nous permettre de comprendre l'état d'esprit des athlètes en ce temps continu de pandémie, parlez-nous du physique et du mental de Muriel. Cinquième au 100 mètres à Rio, est-elle confiante?
Oui, déjà merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'intervenir quand il s'agit du sujet du sport. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, ces jeux sont assez particuliers, hein, dans la mesure où nous savons que dans le mot jeu, il y a le côté festif, côté ambiance, côté vraiment dynamisme. Et vous savez que une des parties de l'adrénaline des sportifs, c'est le peuple, c'est le pouvoir, c'est le spectateur qui les pousse. Alors, des jeux sans spectateurs, ça diminue déjà la capacité des performances des athlètes. Ouais. Et je serais curieux de comprendre et de voir comment cela va impacter donc la motivation et le côté galvanisateur que le public avait sur les athlètes. Ça va être vraiment des jeux particuliers, je ne me cache pas.
Oui. Eugène, de nombreux Japonais, on l'a entendu tout à l'heure avec Philippe, ont jusqu'au bout été hostiles à ces JO, qui qualifient de jeu de la pandémie. Mais pensez-vous que ces JO de Tokyo vont aller au-delà du tableau de médailles? Autrement dit, un message pour dire que la planète peut continuer à vivre et affronter en même temps le Covid.
Mais Jacques, aussi d'abord, merci d'être sur le plateau. Ce qui est sûr, ces Jeux de Tokyo vont avoir lieu. On n'a pas le choix. Et je pense qu'il y a eu, comme l'année dernière, après le Covid, la bulle pour la NBA. Les Jeux de Tokyo, c'est un peu la même chose. Ce sera du moins une possibilité pour amortir les frais des dépenses qui ont été faites par le Japon pour organiser cette compétition. Et pour les athlètes qui se sont préparés depuis près de 8 ans pour certains, de participer à des Jeux. Et donc, on va vivre et on va survivre cette crise. Et on va essayer d'aller de l'avant du mieux qu'on puisse faire.
L'état d'urgence a été décrété à Tokyo jusqu'au 22 août à cause d'une flambée des cas de Covid, évidemment. Nous venons de le voir avec Yakuba. Des cas positifs ont tout de même été détectés au village olympique. Hervé Kouamou, quelles sont ces mesures draconiennes prises par les autorités nippones pour rassurer les pays participants, mais aussi l'opinion publique japonaise?
Ben, en fait, on commence à s'habituer un peu à vivre avec ce sport très encadré, à créer des bulles sanitaires, bon, une bulle olympique dans le cas d'espèce. Donc, il y aura une multiplication des tests, comme on l'a dit, jusqu'à 6 heures avant le début des compétitions pour rassurer. Le village olympique est plus fermé que d'habitude parce que, effectivement, il faut créer une bulle pour que ne puissent participer, grosso modo, que ceux qui ont quelque chose à y faire. C'est vrai qu'on est parti d'une configuration avec d'abord aucun étranger, puis des stades à moitié remplis, et là maintenant il n'y aura pas de spectateurs. Donc en fait, tout va se passer vraiment dans une sorte de bulle. On va essayer de multiplier les tests pour que finalement on puisse contrôler au jour le jour les cas présents, parce qu'il faut rassurer d'un côté les Japonais et puis de l'autre côté que les Jeux effectivement ont lieu, vu surtout que c'est une compétition non seulement qui est très attendue mais qui a coûté excessivement cher.
Oui, JO très particulier donc, pratiquement pas de public, pas de festivités, ni d'acclamations et d'accolades. Serge Dou, vous le disiez. Donc, cela aura un impact sur les athlètes brièvement.
Non, oui, je pense que ce sera quelque chose d'assez inédit pour les athlètes. Mais quelque part, j'allais dire, ça fait 15 mois qu'ils sont habitués à évoluer sans public. Il faut pas oublier que dès le mois de mai de l'année dernière, quand on a repris les compétitions dans tous les sports, on a repris les compétitions avec des enceintes vides. Donc quelque part, il y a une certaine habitude. Maintenant, effectivement, je pense que c'est une compétition sur laquelle il ne faut pas attendre des super résultats, en tout cas sur le plan des performances, parce que dans la pratique, dans leur pratique, ils ont été perturbés, donc ça fait qu'en termes d'entraînement, d'entraînement, ils n'ont pas eu les mêmes enjeux, les mêmes préparations, ils n'ont pas eu le même nombre de confrontations avant l'arrivée. Oui. Et puis effectivement, avec des stades vides, la motivation, se motiver ne sera pas le même, mais en réalité, on restera quand même, on aura toujours des classements, et les meilleurs seront le mieux s'adapter.
Pour la première fois, il y aura autant de femmes que d'hommes à prendre part aux 339 épreuves au programme au nom de l'équilibre entre les sexes, et puis des sports dits jeunes et urbains comme le skateboard, le surf, le basket 3x3 ou encore l'escalade ont fait leur entrée aux JO. Eugène, quelle lecture faites-vous de toutes ces nouveautés? L'histoire des JO 2020, malgré eux, cette histoire est-elle déjà écrite?
Tout à fait. En tout cas, Jacques, ce qui est sûr, c'est une très bonne chose qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Hein, on est dans une société où plus de la moitié de la population est féminine. Il faut d'abord le constater. Et à l'époque, c'était un peu plus réservé aux hommes. Mais on voit de plus en plus l'arrivée des dames. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nos femmes, nos filles, nos mères. Et c'est pour les encourager. Et quant aux différents sports qui viennent de parvenir, c'est une bonne chose parce que ça intègre l'ensemble de la population du monde. On ne va pas se limiter qu'à des sports dits, on peut dire, qu'on a l'habitude de voir. Oui. Maintenant, il est bien d'ouvrir ça à d'autres sports, mmh. et ça permettra justement de développer cette industrie, parce que ne l'oublions pas, le sport est une industrie et tout le monde y trouvera son compte, parce que les qualités pour faire différents sports sont différentes, et là ça permet aux citoyens lambda de comprendre qu'il peut faire son sport et compétir au gym. Et ça,
c'est un côté positif, n'est-ce pas, Eugène? Alors, Tokyo a investi environ 15,4 milliards de dollars dans ces Jeux, dont un surcroît de près de 2,8 milliards à cause du report et des mesures sanitaires. Hervé Kouamouo, est-ce un record pour des JO d'été, brièvement?
Oui, de très loin, on a battu tous les records. Déjà, ce qui devait être avec 13 milliards à peu près de dollars, ça devait être des Jeux Olympiques les plus chers de l'histoire. Mais là, avec les 2 milliards supplémentaires, on a franchi encore un niveau supplémentaire. Et je pense que, enfin, la grande difficulté va être justement le retour entre guillemets sur investissement pour le Japon, puisque ouais. ne recevant aucun touriste pour cette période et ne pouvant déployer aucune opération marketing, parce qu'il faut quand même rappeler que le comité local avait, je crois, 60 partenaires locaux au Japon, ce qui était aussi une grande première, c'est-à-dire que les Japonais avaient fait quand même un vrai corps autour de cette compétition. C'est un petit peu dommage, cette pandémie finalement gonfle la facture sans qu'éventuellement il y ait un retour. J'espère qu'on n'arrivera pas à l'exemple de la Grèce où ça avait été vraiment un gouffre financier très important.
Et comme promis, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. S'il y a un collègue qui va nous faire vivre les moments forts de ce grand rendez-vous, c'est bien lui. Alors Yacouba, merci d'être avec nous. Pouvez-vous donc nous parler de la couverture que propose VOA Afrique au grand public, tant à la radio qu'à la télé, sans oublier le web, bien évidemment?
Merci Jacques. Hein. Vous savez, VOA Afrique sera au cœur du CIJO. Vous l'avez eu tout à l'heure depuis Tokyo. Philippe Caudet donc va nous informer quotidiennement sur ce qui se passe, bien sûr, aux Jeux Olympiques de Tokyo. On a également une rubrique spéciale pour ce qui est de la télévision qui a commencé depuis lundi et qui va se poursuivre tout au long des JO. Il s'agit bien sûr d'une rubrique dans laquelle que j'anime moi-même et que vous allez retrouver des reportages de nos correspondants hein, en Afrique qui vont vivre hein, l'événement à la télévision et donc qui vont prendre des reportages au fur et à mesure des médailles que vont décrocher les athlètes africains en particulier. On a également pour la radio 5 minutes consacrées aux JO dans les éditions de 17h30, 18h30 et 19h30 GMT, pour ce qui est bien sûr des journaux radio. Et pour le web, hein, eh bien on a une page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques de Tokyo sur notre page www.voafrique.com. Vous y retrouverez généralement tous les numéros de la rubrique spéciale consacrée aux JO que je vais animer et que je commence à animé d'ailleurs depuis lundi, et également des articles très enrichissants sur tout ce qui se passe à Tokyo.
Washington Forum, coup de projecteur sur les Jeux Olympiques de Tokyo dont le coup d'envoi officiel est donné ce vendredi. Je vous propose 3 commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Jacques Ongassa de Bukavu RDC, nous devons nous attendre à des contaminations. Alphonse Mwaki Kinshasa, la grande compétition se déroulera sans public, sans recette, un manque à gagner pour le comité olympique. Et Arch l'archiduc Théodore de N'Djamena, Tchad. L'Afrique doit briller dans les disciplines comme la course, le football, le cyclisme, le karaté et autres, afin de prouver ses potentialités au vu et au su du monde entier, étant un continent composé de jeunes qui adorent le sport et les jeux. Et nous retrouvons nos invités de Dakar, l'ancien athlète ivoirien Serge Do, aujourd'hui homme d'affaires, agent de la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré notamment, via Skype de Paris, Hervé Kouamouo, journaliste sportif d'origine camerounaise, et ici à Washington, Eugène Péoua-Péléma, membre de l'équipe centrafricaine de basket au JO de Séoul. Il est fondateur du réseau Africa Education Sports, également directeur technique national de la Fédération centrafricaine de basket. Une récente promotion pour Eugène. Alors, pour reprendre Archiduc, parlons de la participation africaine justement. Un petit rappel d'abord. En 2016 au Brésil, l'Afrique a décroché au total 45 médailles olympiques. Prestation jugée mi-figue, mi-raisin à l'époque. Serge Do, l'interrogation qui revient sur le tapis, le continent va-t-il faire mieux cette fois?
Écoutez, c'est la grande inconnue parce que tout le monde est dans les mêmes conditions. La pandémie, je pense que je dirais même le thème Jeux Coronalympiques, parce que les gens, tout le monde s'est entraîné. Ça n'a pas été évident donc de faire une prédiction. C'est vraiment pas facile de prédire si l'Afrique fera mieux. Mais sachez que par rapport à ce que je sais, l'ensemble des pays africains et des comités olympiques de différents pays s'est organisé pour que l'Afrique, chaque pays africain soit au top, les athlètes africains soient au top pour essayer de battre le record. Mais encore une fois, conditions spéciales, résultats spéciaux, je m'attends pas à ce que quelle surprise, parce que vraiment c'est quand même des jeux assez particuliers, il faut le dire, et je ne pense pas qu'on fera mieux, à mon avis.
Coro-olympique, un terme que j'entends pour la première fois. À Rio, l'Afrique n'a remporté que 5% des médailles en jeu, moins de médailles d'or également. Eugène, pourquoi l'athlétisme africain est-il toujours à la traîne de l'athlétisme mondial? Que faire pour changer les choses?
Mais tout simplement, Jacques Aristide, c'est que nous sommes encore restés au sport artisanal. Le sport africain n'a pas encore compris que la science est rentrée dedans, les préparations sont rentrées dedans. Les autres ont appris, par exemple, au niveau de l'athlétisme, justement, où les Africains brillaient au début des années 60 et ainsi de suite, où on a vu le nombre de médailles diminuer. Les autres nous ont rattrapés parce qu'ils ont essayé d'étudier comment nous on faisait pour gagner, et donc c'était basé pratiquement sur la nature, notre nature qui faisait qu'on pouvait gagner. Mais on a oublié qu'à côté de cela, il y a la musculation, il y a la nutrition, il y a toutes ces choses, les infrastructures, et de ce côté on a oublié bien sûr le côté sport business. Et dès le moment où on n'investit pas dans des bons centres de formation, on n'investit pas pour nourrir nos athlètes de la meilleure façon, de mieux les entraîner, nous ne pouvons pas faire des meilleurs résultats. Et je crois que c'est là, il faudrait que les politiques africains commencent à comprendre que le sport, ce n'est pas une perte de temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un grand business, et on peut le voir, puisque les Jeux de Tokyo, ils vont perdre de l'argent parce qu'il n'y a pas, il n'y aura pas ce côté marketing très développé. Oui. Et donc, il nous appartient, il faut que nos politiques changent et une façon de voir le sport d'une autre manière, plutôt comme une opportunité de développement socio-économique. Et de cette manière, ils vont mettre de l'argent dans l'investissement de la formation de nos jeunes dès le bas âge, ce qui permettra à nos athlètes, dont l'athlétisme, d'avoir des meilleurs résultats. Mais dans le cas contraire, nous serons toujours à la traîne et nous allons reculer de plus en plus. Donc c'est vraiment un cri d'alarme. Il faudrait que les politiques africains se mettent dans la danse.
Voilà, cri d'alarme est lancé. Hervé, comment encourager les nombreux talents dont regorgent les 54 pays africains? Quelle solution pour une meilleure moisson de médailles dans les grandes compétitions internationales? Brièvement, si vous pouvez.
Oui, je dirais que bon, on va les pousser avec toute notre ferveur de loin, de là où on peut être, alors demander de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense qu'on risque d'être sur une Olympiade assez classique, dans la mesure où dans tout ce qui est fond et demi-fond, je pense qu'on va avoir les médailles habituelles, puisque le manque de compétition finalement les arrange, puisque bon, comme comme le disait l'intervenant, j'ai oublié le prénom, désolé, sur le plateau.
Eugène.
Voilà, comme disait Eugène, on est sur des gens qui bénéficient de l'apport à la montagne. Maintenant, pour revenir, c'est vrai que la difficulté de l'Afrique aujourd'hui, elle a deux niveaux, effectivement, sur le plan économique, mais il y a aussi un élément, c'est que quand il s'agit de matières premières, par exemple le pétrole, on le retrouve à certains endroits et pas dans le monde entier. Mmh. Mais aujourd'hui, la matière première enfant de couleur noire, donc si on peut considérer que c'est un avantage, aujourd'hui on le trouve dans toutes les capitales occidentales. Mmh. Donc ça signifie quelque part que les pays africains doivent encore plus se battre pour que justement ces jeunes africains ne soient pas en compétition avec des joueurs, avec des athlètes d'origine africaine, mais qui concourent pour d'autres pays.
Oui. Alors, parmi les 11 090 sportifs inscrits à Tokyo, pas vraiment de vedettes de renommée mondiale, Usain Bolt retraité, pas de LeBron James en basket, pas de Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé en football. Serge Do, pensez-vous que la planète va tout de même être scotchée devant la télé, devant le petit écran?
Oui, je pense que les Jeux quand même restent quelque chose d'assez attractif en termes de retransmission. Et je pense que les gens vont quand même regarder, malgré le fait que, comme vous l'avez dit si bien, la retraite d'Usain Bolt et toutes ces grandes stars connues dans les différentes disciplines, je pense quand même qu'il n'y aura pas trop d'affluence. Peut-être qu'on peut avoir une surprise. Vous savez que le corona a propulsé un peu le monde dans une formation à l'accélération du digital à plus de 10 ans. Donc on l'a vu avec tous les meetings, le télétravail, le Zoom, etc. Donc peut-être qu'on aura des jeux zoomés, en Zoom. Donc peut-être qu'il y aura plus de gens chez eux qui sont confinés ou qui n'ont rien à faire. On peut avoir des surprises en termes d'audimat parce que les gens, justement, sont confinés, vont regarder. Mais ce côté-là peut-être augmenter l'audimat. Mais comme disait tout à l'heure un des intervenants, ça reste quand même du business. L'industrie du sport est devenue quelque chose de fort. On parle de 13 milliards, 12 milliards, etc. C'est énorme. Donc, il y a un manque à gagner en droit de télévision et en divers droits. Donc, j'espère que cela peut être compensé par le digital, pour le fait que les gens peuvent, à partir de leur smartphone ou à partir de leur maison, regarder parce qu'ils sont confinés.
Oui. Et nous retrouvons Yacouba, merci. Après Tokyo, Yacouba, où vont se dérouler les trois prochains JO?
Oui, Jacques, après Tokyo, ce sera le tour de Paris d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024, puis Los Angeles ici aux États-Unis pour 2028. Et vous l'avez suivi hier, le Comité international olympique a décidé d'accorder donc les Jeux de 2032 à Brisbane en Australie, donc seul vilain en compétition. Et on se souvient encore, on va dire, de Sydney 2000 où l'Australie avait réussi, ce qui a été qualifié de Jeux Olympiques de l'ère moderne. Une fois de plus, on s'attend bien sûr à vivre le grand moment, que ce soit à Paris, à Los Angeles ou à Brisbane.
Merci bien à vous, Yacouba Ouédraogo. Alors, pour le président du Comité international olympique, Thomas Bach, Tokyo est la ville la mieux préparée de tous les temps pour des JO. Je vous donne le mot de la fin, Eugène. Partagez-vous cet avis brièvement?
Alors, j'en suis convaincu parce que je me rappelle lorsque je participais aux Jeux olympiques à Séoul.
Oui.
En Asie, ils ont ce perfectionnisme, cette touche de perfectionnisme où ils veulent que tout se passe à l'heure, dans le temps, que ça soit bien préparé, que les gens qui arrivent dans leur pays soient bien accueillis. Et je suis convaincu que Tokyo a fait le maximum pour faire de cette fête du sport une grande fête du sport. Et malheureusement, le coronavirus est venu changer un peu les choses. Mais je suis convaincu que du côté de l'organisation, cela sera un succès de ce Comité national olympique japonais.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à tous nos invités, Eugène Pewa Pelema, Hervé Kouamou, Serge Douf. Et je remercie évidemment mon collègue Yacouba Ouédraogo et à toute l'équipe. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Merci.
Bien-être, sport, beauté, nouveauté. Santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de Santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de Santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.